Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Atari, l'émission débat de Criticat pour une émission consacrée à Eternal Daughter, le nouveau film de Joan Hogg. Donc ce mois-ci, en mars, Criticat donc consacre une partie de son sommaire à Joan Hogg avec un texte sur le film signé Thomas Grignon ainsi qu'un texte d'Alexandre Moussa sur les trois premiers films de la cinéaste qui vont bientôt sortir en salle pour accompagner la sortie de ce nouveau film puisque The Souvenir Part 1 and 2 était le premier film de Joan Hogg à avoir droit à une distribution française l'an dernier. Donc pour parler de ce film de Maison Hantée, je suis accompagné de Josué Morel.
Bonjour Marin.
Et Corentin Lé.
Salut Marin.
Et oui, un film de Maison Hantée avec deux Tilda Swinton, une de Tilda Swinton qui a son âge véritable et une Tilda Swinton une fois n'est pas coutume, grimée en vieille dame qui joue la mère de son autre personnage, qui arrive voilà, dans une maison qui fait office plutôt d'hôtel un peu luxueux, dont on comprend assez vite que les deux personnages voilà, ont une histoire familiale avec ce lieu. Et voilà, tout ça va devenir bientôt brumeux et spectral. Corentin, je me tourne vers toi pour commencer. Comment s'inscrit, selon toi, ce nouveau film dans la filmographie de Hogg?
Alors moi, je n'ai pas vu les deux premiers, j'ai vu les autres. Et je me rappelle, donc on avait vu avec Josué au FEMA à La Rochelle, on avait vu Exhibition, qui nous avait un peu surpris quand même, parce qu'il y avait déjà cette substance de film d'épouvante, en tout cas, je dirais pas film d'horreur non plus, mais il y avait toujours voilà, une sorte de maison vide, un peu inquiétante, avec justement une artiste qui préparait une exposition ou une installation, on sait pas trop, on sait pas vraiment expliqué dans le film. Et là, on a à peu près le même schéma narratif et le même dispositif, c'est-à-dire qu'on va avoir un personnage qui vient dans une maison vide, préparer donc un scénario, elle essaye d'écrire un scénario, elle n'arrive pas vraiment, d'un film qui est centré sur sa relation avec sa mère, donc c'est Julie, la fille, et Rosaline, la mère. Et on va avoir le même, surtout au début du film, dans la première partie, je dirais, quand l'hôtel, quand la nuit tombe, en fait, l'hôtel se vide petit à petit, même s'il est quasiment déjà vide, et on a la réceptionniste qui s'en va au loin, c'est répété au moins 2-3 fois, je crois. Il y a 2-3 soirées comme ça qui se déroulent de cette manière-là. Et le personnage de Tilda Swinton va être réveillé par des bruits la nuit, alors évidemment, ça fait penser tout de suite à Memoria ou ce genre de choses, et elle va se mettre à déambuler, en fait, dans le manoir, et donc. Le dispositif entre guillemets du film, ça va être principalement des plans fixes avec de légers panoramiques où on suit le personnage qui va passer dans les couloirs, monter les escaliers, descendre, etc. à la recherche donc de l'origine de ce bruit-là. Et ce qui était intéressant, c'était que tout de suite, ça m'a fait penser moi à Exhibition qui était déjà dans la même veine, même si pour avoir vu The Souvenir aussi, bah, quelque part, The Souvenir n'avait pas grand-chose à voir et en fait, Eternal Daughter vient un peu faire la greffe de ces deux films-là, c'est-à-dire qu'on a un film de maison hantée et à côté un film réflexif, au sens littéral comme figuré, c'est-à-dire qu'on a énormément de miroirs, un personnage dédoublé, et à côté un projet réflexif, c'est-à-dire de la matière du film, comment on l'a créé, le cinéma, la création, etc., sachant qu'on imagine bien que Julie est un avatar en fait, de Joanna Hogg, comme elle en a en fait, dans beaucoup de ses films. Et moi, bon, je l'ai vu à Venise du coup la première fois en septembre dernier, qui était déjà voilà, une sorte de confirmation aussi pour Joan Hogg en termes de statut. Et j'avais été vraiment agréablement surpris de la manière dont, quelque part, elle avait transposé la matière qui était dans l'exhibition dans un film d'épouvante, d'inspiration gothique. Enfin voilà, moi j'ai trouvé que ça fonctionnait assez bien, même si je pense que Josué n'est pas forcément d'accord avec moi, mais on pourra un petit peu élaborer là-dessus. Enfin voilà, une espèce de déplacement comme ça du cinéma de Joan Hogg vers quelque chose qui en fait existait déjà avant, quoi.
D'accord. Oui, et puis c'est vrai que comme tu le disais, c'est pas habituel, mais c'est vrai que c'est un épisode d'Atari où tout le monde n'est pas forcément d'accord. Donc Corentin, tu aimes beaucoup le film. Moi, je l'aime un peu et je crois que Josué est un peu plus mitigé. Donc peut-être, Josué, on peut partir de tes arguments. Pour voir.
Oui, c'est intéressant parce que moi aussi, j'ai vu Exhibition et je suis pas tout à fait d'accord parce qu'il me semble que la maison n'est pas le cœur. C'est-à-dire que la maison était vraiment le cœur d'Exhibition, alors que là, le cœur me semble être un espèce de double dispositif qui s'entreposerait. Et à vrai dire, qui pendant une partie du film serait commun un peu aux deux aspirations que viserait un peu le film, c'est-à-dire que la grande attraction vraiment c'est cette idée de faire des champs contre champs entre Tilda et Swinton pour dire les choses ainsi, hein, c'est-à-dire que d'un plan à l'autre, l'actrice se dédouble. Et il faut le dire, alors bon là, un peu les précautions d'usage sur les spoilers ou que sais-je, mais il y aurait une forme de non pas de twist, mais en tout cas de secret très rapidement inventé durant le film, c'est-à-dire que en fait la mère du personnage principal est déjà morte et qu'en fait on est dans une configuration qui serait pas très éloignée de celle de Sixième Sens de M. Night Shyamalan, même si narrativement c'est un peu différent puisqu'on n'a pas un personnage qui se ment à lui-même et qui ne se rendrait pas compte qu'il est mort, mais on aurait plutôt un personnage qui projetterait son double spectral, c'est-à-dire le personnage donc de Julie, si je me trompe pas, qui projette sa mère. Mais dans les faits, ça produit à peu près la même chose, c'est-à-dire que moi je trouve ça vraiment passionnant comme horizon de mise en scène, parce que généralement quand on essaye de mettre en scène, du moins quand on le fait un petit peu avec intelligence, l'intériorité d'un personnage, en fait on va toujours chercher quelque part à objectifier sa subjectivité en l'inscrivant dans l'espace, dans la composition, par le montage. Or là précisément, dans un cadre comme ce nul éternel d'auteur ou de Sixième Sens, ça implique de mettre presque en concurrence une subjectivité objectifiée dans un monde qui ne s'accorde pas à ce regard-là. C'est-à-dire que le personnage de lui imagine qu'elle est avec sa mère et elle est dans un monde où sa mère n'existe pas. Et donc ça va produire de la friction, de l'entrechoc et par essence du champ contre champ. C'est-à-dire il y aurait quand même une forme de manière de scinder vraiment le champ contre champ, ne met pas seulement en regard Tilda Swinton et Tilda Swinton, mais met en regard deux conception du monde qui sont quelque part antinomiques, c'est-à-dire une conception où la mère est morte et une conception où le personnage de Julie arpente réellement les lieux et une autre où il y aurait en fait ce double spectral que serait sa mère. Et en fait, je trouve que par endroits ça produit des choses. Exemplairement, je trouve que ça c'est très fort. Alors j'ai des réserves sur le début, notamment la manière dont on voit les personnages arriver vers le manoir avec un taxi qui fraye la brume. Il y a un plan assez beau d'ailleurs, mais très fugace où on voit les phares comme ça à travers la brume, mais en même temps on voit que le taxi est un peu filmé sous tous les angles et que l'horizon de cette scène-là, de cette scène d'introduction, c'est vraiment de fixer une forme d'ambiance gothique, hein, ce dont parle d'ailleurs Thomas Grignon dans son texte. Et là, je trouve qu'il y aurait peut-être quelque chose dans l'articulation entre le principe du film et le genre qui prend pas vraiment. C'est-à-dire que moi, je trouve que ça produit par endroits. Donc, je lisais des choses, par exemple, l'entrée de la mère dans le manoir, c'est super parce qu'en fait, on voit que la mère est à moitié.
On la voit pas marcher, en fait.
Voilà.
Par exemple,
elle est mobilité réduite. Disons qu'elle est très rapidement essoufflée, fatiguée. Donc déjà, le simple fait qu'elle s'extrait de ce taxi, on voit l'ombre du personnage de Sunan. Et en fait, le plan d'après, la mère est déjà dans le hall et on voit qu'il manque un plan précisément. Hein, laissé hors champ, c'est-à-dire comment elle a pu se déplacer jusque là. En plus, on voit qu'il y a quasiment personne dans cet hôtel. Donc en fait, on comprend très bien qu'il y a un truc qui prend pas tout à fait. Et sur cet endroit-là, il y a pas mal de plans, notamment par l'entremise des miroirs, où cette idée comme ça de mettre en concurrence deux régimes de réalité fonctionne plutôt bien. Mais au bout d'un moment, et j'en parlais un peu avec Marin au moment de préparer cette émission, il y a quand même un problème. C'est que Johanna Oktrich, il y a un ou deux plans qui vont contrevenir à cette logique intrinsèque de, en fin de compte, il y aurait deux concurrences de vision du monde. Et pourquoi elle triche? Parce qu'il y a un autre dispositif dans le film qui finit par prendre le pas, c'est-à-dire, et là je pense qu'il n'est pas si fructueux que ça, c'est que je crois que Johanna Hogg a un peu la naïveté quand même de se dire que filmer Tilda Swinton face à Tilda Swinton, c'est un spectacle en soi fascinant, et il y aurait quelque chose qui serait de l'ordre presque du protocole expérimental, c'est-à-dire, c'est un truc qui n'est pas nouveau, hein, qui a été beaucoup fait dans l'histoire du cinéma, mais cette idée qu'un acteur va jouer plusieurs rôles.
Elle jouait déjà plusieurs rôles dans Okja d'ailleurs, oui, c'était des sœurs jumelles.
Exactement, enfin voilà, il y a un certain nombre de, même dans l'histoire du cinéma, hein, évidemment c'est pas quelque chose de nouveau, mais ça reste toujours en fait un principe expérimental. Qu'est-ce que ça fait si un acteur est dans le même plan, Fantomas, hein, avec Jean-Marie faisait ça quelque part, il y avait une logique, un sous-basement vaguement expérimental. Et je crois qu'en fait, à un moment, elle a un peu l'habitude de croire que c'est un spectacle fascinant en soi et qu'elle se laisse un peu manger par la fascination qu'elle a pour son actrice. Et je trouve qu'à cet endroit-là, sur le genre, il y a quand même ce truc de, pour que le film tienne, pour qu'il y ait quand même un semblant de mystère et qu'on avance, elle est obligée d'introduire des éléments dissonants. Elle est obligée, pardon pour le jeu de mots un peu facile, mais elle est obligée de faire genre. C'est-à-dire, par exemple, avec le personnage de la réceptionniste. Alors, il y a ce truc un peu intrigant de la réceptionniste chaque soir, la réceptionniste qui est assez mal aimable par ailleurs, par une voiture, on comprend que c'est son copain qui vient la chercher, il y a une musique très forte, il y a quelque chose qui se répète, donc il y aurait quelque chose de vaguement dissonant, mais il y a aussi des plans de la maison ou du reflet de la réceptionniste dans son petit miroir de maquillage, en fait, où là, il y aurait quasiment une forme de sous-suspiria qui serait en train de se mettre en place, et où quand même Johanna Hogg est obligée de distiller un peu des figures obligées du film de genre, mais de façon pas tout à fait passionnante, et surtout dans un leurre, quoi, dans une perspective comme ça, pour essayer de maintenir une forme d'incertitude. Et là, ça prend pas totalement. Mais bon, je dis ça parce que c'est vrai, quand j'étais sorti du film, je le trouvais à moitié réussi, et là, plus j'y pense, je trouve presque un peu, c'est malheureux à dire, à moitié raté, mais il y aurait quand même quelque chose sur cet entremêlement de champ contre champ, d'incertitude, où là le film à mon avis creuse quelque chose d'intéressant, mais en fait il va pas jusqu'au bout parce que cette logique d'entrechoc, en fait, elle obéit à deux dispositifs qui, à mon avis, dialoguent ensemble pendant toute une partie du film, mais qui, au bout d'un moment, bah, j'utilisais le terme de concurrence, mais là, entre concurrence, c'est-à-dire que, par exemple, si elle veut filmer à un moment le personnage de Julie regarder de loin sa mère, parler d'elle alors qu'elle a l'impression de ne pas la voir, ça implique de faire intervenir un personnage qui dialogue et donc de casser la logique de ce personnage n'est que la projection de son esprit. Tu vois, là, à cet endroit, j'ai l'impression, par exemple, qu'un dispositif prend le pas sur l'autre et casse un petit peu la logique du film. Et on en parle avec Marin, c'est-à-dire qu'il y a deux, trois plans comme ça où, durant le film, mentalement, on se dit « Ah, mais peut-être que je me suis trompé. En tout cas, là, les règles ont l'impression de changer. » Et en même temps, il y a quelque chose de ludique là-dessus. Par exemple, il y a le rituel où chaque soir, elle dîne au restaurant de l'hôtel. Et c'est vrai qu'au début, je me dis, mais c'est curieux parce qu'on voit qu'un seul personnage commandait son assiette. Donc je me dis, je vais repérer la serveuse si elle rapporte potentiellement deux assiettes. Et à un moment, tu vois bien qu'elle rapporte deux assiettes, donc tu te poses la question de est-ce que vraiment la mère est morte ou pas. Mais ça, à la rigueur, ça peut marcher. Mais enfin voilà, je veux dire, c'est que le film invite quand même à ça. On ne peut pas simplement dire, d'une certaine manière, c'est pas grave qu'elle tienne les règles, parce que c'est vraiment, à mon avis, l'essence du découpage pendant une partie du film, mais que ça finit par être dévoré par l'autre aspiration, à savoir un pur exercice d'observation et de fascination par une actrice qui, je suis désolé de le dire, mais en fait, ne me semble pas aller très loin, quoi. Je suis pas sûr que ce qui se joue sur ces champs contre champs entre Tilda Swinton et Tilda Swinton creuse l'horizon le plus passionnant du film.
Pour faire un peu la jonction entre vous deux, pour repartir effectivement de Sixième Sens, effectivement, il y a ce côté un peu ludique qui est, bon, moi j'ai jamais vu Sixième Sens sans connaître la fin, donc déjà, mais ma première plus, vision de Sixième Sens, je cherchais un peu les règles, et là, un peu de la même manière, dans Eternal Daughter, le mystère est un peu un non-mystère. Mmh. Et donc, je me suis assez plu, effectivement, à observer voilà, comment ça fonctionnait. Effectivement, tu parles des scènes du dîner. Moi, je trouve ça assez bien fait de se rendre compte qu'en fait, la façon dont la mère commande la même chose que sa fille, et donc dans les dialogues de la réceptionniste, d'une certaine manière, intègre le fait que ça peut être un personnage seul qui a parlé. Et il y a quelque chose comme ça qui tient un peu tout le long du film, mais avec effectivement ma réserve, c'est aussi qu'il y a des moments où on réfléchit un peu trop aux règles, où on se dit mais en fait comment fonctionne un petit peu le dispositif, mais il y a quelque chose quand même qui est très clair à savoir, et qu'on comprend assez vite dans la mise en scène, qui est que les deux personnages ne seront jamais dans le même plan, et il y a seulement deux exceptions à ça, puisque toi le moment où selon toi Hogg rond un peu avec les règles, c'est lorsque
le plan du miroir, moi ça me pose aucun problème, je trouve assez passionnant.
Oui, toi tu dis qu'elle triche quand elle regarde, quand Julie regarde sa mère discuter avec quelqu'un.
Voilà.
Mais en tout cas, sur la question du champ contre champ, effectivement, Tilda s'adresse toujours à Swinton et c'est toujours découpé de plein de manières différentes. Il y a deux exceptions, effectivement, qui est le premier, un miroir, donc on l'accepte quelque part, le miroir permet toujours un petit peu de tricher, voilà, sur les apparitions. Et la deuxième triche, en fait, n'en est pas vraiment une, puisque c'est la scène de l'anniversaire à la fin, le dîner, où enfin il y a un plan de profil, où les deux apparaissent, mais avec ce petit hic, il y a quand même un surcadrage très fort des vitres derrière elle, donc qui les sépare. Et puis moi, j'étais un peu déçu quand même quand est apparu ce plan. Je me suis dit, ah mince, pourquoi elle triche là? Et en fait, c'est le même plan qui sera utilisé quelques minutes plus tard dans le montage pour faire définitivement disparaître la mère. Mais c'est vrai que par rapport à ce que tu dis, je ne sais pas si la fascination pour les actrices, pour l'actrice plutôt, je me suis fait avoir. Et finalement, le cœur du film, je te trouve un peu dur avec la maison. Pour moi, il y a quand même quelque chose d'assez fort dans ce côté réminiscence de la Hammer, voilà, ce brouillard terrible et l'intérieur de la maison. Ce que j'aime bien, c'est que c'est une maison gothique, mais c'est aussi un hôtel pour riches. Et quelque part, on se sert un peu des deux éléments. Enfin, il y a des choses techniquement liées à l'hôtel, que sont par exemple toutes les sorties de secours qui font des petites lumières vertes inquiétantes, les rapports avec la projectionniste, l'espèce de gardien de nuit qui me suis demandé la moitié du film si lui aussi n'était pas un fantôme.
Par la perte de sa femme.
Voilà, exactement.
Mais à la rigueur, le gardien de nuit ne réapparaissait pas à la toute fin, alors qu'il est acté que la mère a disparu, qu'il venait la voir, toi qui as sa porte, à la rigueur, ça pourrait fonctionner.
Là, sur ce personnage, je m'interroge un peu, je suis d'accord. Mais ce que j'ai préféré dans le film, finalement, c'était moins les champs contre champs sur Tilda Swinton, quoique ça permet effectivement d'explorer deux phases de son jeu. Et par exemple, les moments où Julie fond en larmes, Je crois pas avoir vu ça avant chez Tilda Swinton, qui est plutôt une actrice très très froide, qui n'a pas tellement d'effusion comme ça de sentiments, mais c'est plus les moments de déambulation de Julie seule à la recherche des sons dans l'hôtel qui moi m'ont marqué, avec beaucoup d'effets d'angles curieux et de choses très simples. Moi je trouve que le film fonctionne beaucoup sur des petits détails assez géniaux, et je peux prendre deux exemples. Il y a des plans fixes en fait qui semblent être vraiment extrêmement bien positionné pour qu'un effet apparaisse plus tard dans le plan. C'est-à-dire qu'on voit un plan assez simple, et puis par un déplacement, il va se passer quelque chose. Par exemple, c'est un plan sur une porte avec un décor sculpté, et puis Tilda Swinton va l'ouvrir, et ça va faire que la gorgogne va d'un coup regarder directement dans la caméra. Ou plus tard, alors que Julie aura récupéré des clés à la réception, elle va monter dans l'escalier, et en fait le plan qui était un plan large va devenir à la fin un gros plan sur les clés, voilà, un peu à la manière, ça me fait penser un peu au secret derrière la porte de Lang. Mais voilà, il y a plein de petits jeux de mystère au fond assez ludiques qui font que je trouve qu'elle se pour un film un peu de genre quand même si le film n'est pas proprement horrifique, enfin il joue un peu entre les lignes, pour un film voilà produit par un 24 avec une idée de genre, elle se moque pas de nous quand même, elle joue quand même le jeu, il y a quelque chose d'assez elle accepte tout à fait, voilà, moi ça m'a semblé presque ressembler à un film de commande quelque part, de voilà, c'est un film de maison hantée qui ne sera, elle a rien à, il n'y a pas de discours sur le monde, il n'y a rien d'élevé entre guillemets.
Non, mais moi,
ça m'a plu en tout cas à ce niveau-là.
Moi je pense que c'est possible aussi de faire fausse route avec le film en partant du principe que ça va être un film d'horreur. Tu vois, c'est-à-dire que évidemment que le film joue de cette ambiguïté-là au début surtout, mais très vite on se rend compte surtout qu'il n'y a pas vraiment de suspense sur la véritable nature de ce second personnage dès le début, c'est-à-dire qu'elle est à l'arrière de la voiture, on dirait qu'elle est déjà morte en fait. Elle bouge pas, elle est blafarde, elle est vraiment blanche, c'est presque un corbillard quelque part. Et il y a un détail aussi qu'il faut garder en tête, je crois que c'est évoqué dans pas mal de dialogues, c'est que le manoir est une maison de famille. Donc dans cette maison de famille, il y a plein de souvenirs, alors sans faire de mauvais jeu de mots, sur du coup la vie de sa mère qui venait en vacances, j'imagine, dans ce grand manoir, un bourgeois nog, visiblement issu d'une famille bourgeoise. Et donc quelque part, cet hôtel-là, c'est pas non plus un lieu complètement étranger. Voilà, c'est un lieu qui peut être familier pour les personnages. Et donc du coup, en fait, le sujet du film, c'est peut-être moins la question du fantôme, est-ce que c'est un fantôme ou pas. En fait, très vite, on se rend compte que de toute façon, c'est pas l'enjeu.
C'est une maison hantée par des souvenirs familiaux, voilà. En fait.
Mais oui, mais en fait, c'est ça justement. C'est pour ça. C'est pour ça que c'est le problème, en fait, de certaines manières. C'est on n'aurait pas le personnage de Tilda Swinton qui s'inscrirait dans un milieu. C'est même le lieu est un lieu immatériel qui serait le lieu de la mémoire, de l'évanescence. Et c'est ça, en fait, mon problème avec le film. C'est-à-dire que sur le côté, l'horizon de genre qu'elle creuse quand même un petit peu, tu vois, ça, elle fait quand même à un moment un film à la sixième sens. En fait, ce qu'elle en tire, c'est pas passionnant non plus. C'est-à-dire, par exemple, c'est des inserts sur un sac en plastique blanc sur lequel on donne un petit coup de pied, tu vois, ou alors c'est l'espèce d'étrangeté un peu forcée autour de la réceptionniste. C'est là, en fait, que ça me pose un petit peu problème. C'est-à-dire que elle est obligée quelque part, c'est là où c'est peut-être la distinction, légère différence entre nous, c'est-à-dire que pour moi vraiment elle construit le film autour de son actrice, ce qui n'est pas forcément un mal, mais c'est que dans cette construction-là il y a une relative artificialité. Et ce que tu dis sur le lieu, c'est là, je trouve ça intéressant, parce que pour moi là on se rejoint, c'est qu'en effet en fait le lieu est avant tout une espèce de projection mentale par les dialogues, par les souvenirs, etc. Et c'est pas forcément la matérialité même du lieu qui la passionne, tu vois. Je pense qu'en fait elle a choisi le film d'abord pour son actrice avant le lieu, d'une certaine manière. Et pour un film de maison hantée, c'est peut-être une limite, c'est-à-dire que moi, d'ailleurs, son dispositif de chant contre chant et la manière dont on l'agence, une piste fantastique à proprement parler, c'est-à-dire qu'il y aurait une piste surnaturelle ou une piste réelle, c'est-à-dire soit elle est en train de vivre une espèce de thérapie de deuil bizarre, soit au contraire, elle est en train de dialoguer avec le fantôme de sa mère, elle ne se rend pas vraiment compte qu'elle est morte. D'une certaine manière, ça passe aussi par des chants contre chants, etc. Ça passe moins exactement par l'exploration des aspérités de la maison, et c'est ça ma limite, c'est-à-dire que sur l'horizon pur de genre, je trouve que le film est un peu maigre par endroits.
Oui, Exhibition était beaucoup plus centré sur la matière
sur la maison,
ou la configuration de la maison, et c'était même des jeux avec le bruit, les grincements des
portes, lumière, etc.
Voilà. Là, c'est vrai qu'on est dans une logique plus de cinéma expressionniste, en fait, de projection mentale, du décor comme projection mentale de l'intériorité d'un personnage. On l'a beaucoup avec ces espèces d'escaliers en spirale, là où avec on a beaucoup de plongées ou de contre-plongées, et c'est pour ça que tu parlais d'angle un petit peu décentriste, parce que le personnage est lui-même pas vraiment dans le réel, en fait. Mais c'était quelque chose qui était déjà à l'œuvre, en fait, dans Souvenirs. quand il y avait, alors il me semble que c'est au début de la partie 2, donc on a le personnage qui monte un film en fait sur la perte donc de son premier amour, on va dire ça comme ça. Donc là, c'est le projet est relativement similaire, même si la relation n'est pas la même. Et donc la première fois qu'elle arrive sur le plateau de tournage, en fait, c'est filmé exactement comme Eternal Daughter, c'est-à-dire que la caméra est placée derrière la fenêtre, elle se déplace, on dirait un fantôme, il y a des légers mouvements de caméra, beaucoup de surcadrage. Et donc en fait, elle entretenait déjà ce principe-là, c'est-à-dire de faire du cinéma et de parler du cinéma comme une manière de dialoguer avec les fantômes, en fait. Et de dialoguer avec le passé, de dialoguer avec les souvenirs. Alors c'est une perspective qui est, du coup, je suis d'accord, assez immatérielle, assez auto-centrée, mais en fait elle ne s'en cache pas du tout, puisque de toute façon il y a des miroirs partout, il y a des surcadrages partout, elle ne filme qu'elle-même. Et c'est quelque chose qui était d'ailleurs assez intéressant dans la première partie de Souvenirs, je crois, où à un moment son premier projet de film à Johanna Hogg, alors si on en croit le récit du film, ce serait un film sur des dockers à Liverpool, enfin je sais pas exactement, mais quelque chose de complètement exogène, quoi, à son milieu. Et on lui a dit, mais qu'est-ce que tu as vraiment à nous dire là-dessus? Et donc, quelque part, bon, Johanna Hogg a pris en charge ce côté du processus de création cinématographique comme une manière, comme ça, de réfléchir à sa propre filiation, je dirais, à son propre traumatisme. Et donc, du coup, le film, en fait, en effet, est moins un film de maison hantée. C'est pour ça que le début de l'émission colle avec le début du film. C'est-à-dire que c'est peut-être une fausse piste. C'est-à-dire que c'est plus un film sur le cinéma, ou en tout cas sur ce que ça implique que d'écrire un scénario ou de chercher l'inspiration, c'est-à-dire de naviguer à la fois dans une zone qui est complètement fantasmée et à la fois aussi dans la réalité. Donc c'est pour ça qu'on a cette alternance dans le film.
Ça raconte quoi précisément sur cette question, tu vois? C'est-à-dire, moi, je crois quand même qu'il y a un peu une tentative de. On réfléchit sur sa propre expérience, et en plus quelque chose visiblement de probablement autobiographique ou du moins de l'ordre de l'autofiction qui se manifeste dans le film. Dans cas, ouais. Et puis on va mettre Tilda Swinton face à Tilda Swinton, et j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu cette idée, bon, qu'est-ce que ça va produire? Et à l'arrivée, vous voyez, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de réponse très franche. Qu'est-ce que ça produit strictement, cette question, par exemple, de l'intrication entre le réel, la fiction, la réflexion sur le scénario? C'est-à-dire qu'il y a un côté bouclé. À la fin, on voit en fait qu'elle écrit quelque part la scène d'ouverture qu'on a vue. Mais est-ce que, fondamentalement, ça raconte quelque chose de précis sur le processus créatif, sur le rapport entre fiction et autobiographie? Je ne suis pas si certain. Je pense que le film est comme ça, un peu impressionniste par touche, mais qu'il ne sait pas toujours exactement ce qu'il veut faire.
C'est vrai que, pour moi, contrairement à The Souvenir, j'ai pas ressenti très fortement l'importance du fait que Julie est cinéaste. Elle aurait pu être écrivain. Pour moi, le film aurait pas, ça aurait pas changé grand chose. Enfin, j'ai un peu cherché ce que ça avait à nous dire du cinéma, en tout cas. Oui, voilà, c'est un personnage observatrice, mais il n'y a pas quelque chose de l'ordre de la spécificité du cinéma, je trouve. Et d'ailleurs, quand elle écrit à la fin, ça parle du brouillard et tout, ça me fait penser à ce Twixt. Film qu'on aime bien, voilà, ouais. Twixt, There Was Fog on the Lake.
Bon, ce qui est intéressant, c'est que déjà dans ce souvenir, donc Tilda Swinton jouait déjà la mère du personnage, et donc le personnage principal qui jouait Johanna Hogg était la fille de Tilda Swinton dans la vraie vie. Enfin, donc du coup, il y avait déjà ce côté, tu sais, un peu mis en abîme, évidemment, du tournage lui-même, et c'est souvent ça chez Johanna Hogg. Moi, je trouve que, alors j'attends pas forcément du film qui me donne une clé en main, quelque chose de très précis sur comment faire un scénario, tu vois, c'est pas comme ça que je l'envisage. Par contre, c'est vrai que ça reste un petit film, c'est-à-dire que c'est une heure et demie, il faut pas oublier que c'est beaucoup moins ample que The Souvenir, qui me semble durer 3 heures, en fait, si on colle les deux bout à bout. Moi, ce qui m'a le plus plu, en fait, dans le film, c'est la manière dont, quelque part, le dispositif de maison hantée, hein, comme on disait, avec cette espèce de maison, en fait, se faisait presque, comme tu le disais, et moi, je trouve ça fonctionne plutôt bien, c'est-à-dire que se faisait presque envahir par l'émotion, en fait, de la perte, en gros, d'un proche, quoi. Enfin, il y a quelque chose comme ça de, en fait... quelque part, on essaie d'occuper l'espace, hein, les bruits qu'elle entend, en fait, bon, peu importe si ils émanent d'une réalité matérielle ou pas. Là, on n'est pas chez Wirastakul, hein, où à un moment, Wirastakul nous donne la clé de l'origine du son. Là, on ne l'aura jamais vraiment. Par contre, on a un personnage qui, quelque part, essaie de remplir le vide, et qui, à un moment... c'est là le fameux le gâteau d'anniversaire, quoi. On a une coupe où, à un moment, ce vide-là s'impose au personnage, et à partir de ce moment-là, bon, c'est une sorte d'ouverture, en fait, pour l'écriture, et on re-remplit le vide comme ça. Et donc, en fait, on a un espèce de jeu d'aller-retour entre remplir le vide dans l'espace, ensuite voir que quelque part elle s'évapore. Hein, je crois qu'il y a même un plan, un moment, où on voit une espèce de petite fumée qui part vers la fenêtre, et c'est le lendemain où elle se réveille sur le lit avec le même cadrage, où elle va se mettre à écrire, en fait, le scénario. Et donc, il y a un jeu comme ça d'évidement, de remplissage, etc. Et c'est un jeu que je trouve assez bien amené au fur et à mesure.
Oui, si on doit tirer un peu une espèce de morale, enfin pas de morale, mais de maxime au film sur cette question de l'écriture, ce serait peut-être quelque chose de l'ordre. Il faut un peu se dire à soi-même la vérité avant de pouvoir parvenir à raconter quoi que ce soit.
Oui, complètement. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi, je peux accepter, entre guillemets, le personnage secondaire, donc du gardien qui intervient petit à petit, parce qu'en fait, c'est un personnage qui est à moitié lucide. C'est-à-dire que de temps en temps, elle va avoir des moments de lucidité, c'est-à-dire que typiquement quand elle, quand on voit donc la mère qui discute avec le gardien, en fait, bon, Tilda Swinton jeune entre guillemets n'apparaît pas dans le plan et c'est elle qui devient le fantôme quelque part qui hante les portes puisqu'elle est en train d'ouvrir la porte, elle regarde, elle ne dit rien et quelque part bon, il y a une sorte de jeu comme ça de transfert entre les deux. Donc moi j'avais peur en fait en voyant le film et en comprenant assez vite quel était le projet, que ça allait être un portrait psychologique assez lourd. En fait, bon, c'est très simple en fait ce qu'il nous dit. Et là, je suis d'accord que peut-être que ça n'est pas assez, dense au niveau de ce que ça implique au niveau de la création cinématographique. Mais au moins, le film ne verse pas non plus complètement dans un versant psychologisant qui n'était plus le cas de Souvenir, qui moi, du coup, surtout dans
un film un peu, enfin, je trouve un film assez passionnant, mais quand même épuisant effectivement sur. Sur l'intrication à l'intérieur de l'esprit du personnage, quoi.
Ouais, c'est ça. Et on avait déjà les deux pôles d'ailleurs que tu décris, hein. C'est-à-dire qu'on avait c'était partie 1, partie 2, les deux films les en miroir, et au milieu il y a la mort donc de son premier copain en fait qui vient marquer la scission des deux films, et donc les films se répondaient. On avait la première partie qui était peut-être la moins convaincante, parce que c'était la plus, disons, dans l'émulation.
Celle qui ressemble le plus à un film un peu plus classique aussi, c'était voilà, vraiment une histoire d'amour. Après, il y avait le deuxième film qui montrait comment le premier film avait été fait presque pratiquement.
Ouais, c'est ça, et donc l'étroitesse du film, je dirais, parce que c'est un huis clos, mais qui dure aussi peu de temps et qui n'a pas de grandes, comme tu dis, de grandes maximes, en fait. Il n'y en a pas vraiment à la fin du film. Un portail s'ouvre, la voiture part au loin, et le film recommence quelque part, parce qu'on recommence à écrire le film. Au moins, ça annonce... Enfin, j'espère, hein, je ne fais pas un pari sur l'avenir, mais Joanna Hogg va avoir forcément est mise en lumière de plus en plus. Et pourtant, ce qui me semble être le plus intéressant, là, je suis d'accord avec toi, Josué, quand même, c'est ces dispositifs en fait, centrés vraiment autour de scènes qui prennent en compte voilà, la spécificité d'un décor, la situation d'un personnage dans l'espace. Exhibition, c'était vraiment que ça. Donc moi, plus je parle de ce film, plus j'ai envie de le revoir. Et quelque part, la première fois que je l'ai vu, j'étais un petit peu comme toi d'ailleurs, étonné quoi, par ce que je voyais. Mais voilà, il y a quelque chose comme ça qui... Il y a dans le cinéma de Joanna Hogg, et même dans les films de souvenirs que j'aime moins que les autres, il y a toujours ça. Il y a toujours des scènes, un moment qui se crée, qui se cristallise autour de quelque chose qui est hyper intéressant, moi, je trouve. Et les textes d'Alexandre et de Thomas en témoignent quand même assez bien sur le site.
Non, mais je crois qu'on peut s'arrêter là. Merci Josué, merci Corentin.
Merci
Étienne derrière la caméra et merci au Ciné 104 de nous accueillir. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode d'Atari.